pas compliqué, voilà. Donc on est Dafnoun Dalet tout en bas de la page. Alors je vous rappelle qu'on est sur un problème qui est de savoir est-ce que les morts savent ce qui se passe ou bien sont intéressés à ce qui se passe dans notre monde après leur mort. D'accord ? Et donc ça tracasse la Gemara. Et on a eu plusieurs avis, la Gemara fait des va-et-vient, oui, non, et on va voir qu'on va continuer sur plusieurs histoires qui montrent que ils ont l'air de savoir, mais d'être plus ou moins intéressés, on va voir. Donc on a vu une première longue histoire de ce fameux chassid qui s'était disputé avec sa femme une veille de Rosh Hashana, qui a été dormir au cimetière, qui a écouté les deux petites filles qui étaient enterrées, etc. Et grâce à ça, il a fait fortune, et l'année d'après, il est retourné, il a encore refait fortune, et la troisième année... Il a dit à sa femme, et sa femme s'est bagarrée avec la voisine en lui disant bon, vous rappelez toute l'histoire? Bon. Et donc ça s'est arrêté là, et les deux âmes ont dit stop, on arrête de divulguer les secrets qui se passent en haut, et il est reparti bredouille. Donc la Gemara dit, donc tu vois bien que les âmes savent ce qui se passe, bon ça c'est pas vraiment une preuve, et que deuxièmement, elles ont un lien avec les vivants. L'Agmara dit non, c'est pas une preuve, etc. Bon, l'Agmara a réfuté. Maintenant, l'Agmara amène une autre preuve. Tachma, viens, écoute. Vous êtes bon? Des Abois des Shmuel, il y avait un rab qui s'appelait Père de Shmuel. Alors, en soi-même, c'est rigolo parce que...
On n'a pas, non.
Alors, c'est la histoire d'avant. Pardon. Excusez-moi. C'est l'autre Tachma. Tachma, excusez-moi. Des Zéhiri, il y a un rab qui s'appelait Zéhiri. Zéhiri, c'est dire le petit, c'est son surnom. Avant Mafkid Zouzé, le Gabé Ushpezirte. Il avait laissé en dépôt de l'argent chez son hôte. Donc ce que les rabbanim, ils circulaient. Il n'y avait pas comme maintenant dans chaque endroit une yeshiva, un betamidrash, etc. pour pouvoir étudier, comme en Afrique du Nord d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas dans tous les endroits des yeshivotes, il fallait que les gens se déplacent, ils allaient dans un autre endroit, etc. Et donc, quand il partait, il est parti avec de l'argent ce Zéhiri, et il a laissé de l'argent chez son hôte. Adiatal vazil leberav. Quand il est parti après à la yeshiva, et il est revenu, Shriva, la maîtresse de maison, l'hôtelière qui l'hébergeait, elle était morte. Et donc, elle était morte avec sans dire où était l'argent. Et il n'y avait personne à qui demander. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal batra le chatzar mavet. Il est allé derrière elle, il est allé la chercher à la cour des morts. Donc l'expression, elle est en soi-même bizarre. Donc on va revenir après, parce qu'on n'a jamais vu cette expression de chatzar mavet. D'accord? On connaît bet akvarot, mais chatzar, c'est une cour, mavet de la mort, la cour de la mort. Il est parti là-bas. Amar là, il lui a dit... Donc il l'a trouvé là-bas, elle était morte. Zouze Echa, où est mon argent? Amrale lui a dit, Chaklinou, va les chercher, mais tout est sinoura de Dasha, sous le perron, de Bédour plane dans tel endroit. Je les ai cachés là-bas, pour que personne ne nous les vole, je les ai cachés sous le perron de la porte. De Imalal Ima, et tu diras à ma mère, donc c'est la mort qui lui dit, Teshadir li masrokai, qu'elle m'envoie mon peigne, vegouvtaï, et mon farajou. Beade planita, avec madame X, deatia le machar qui vient demain. Bon, donc c'est vraiment, d'accord, c'est la Gemara dans, alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? D'abord, déjà, qu'est-ce que la Gemara veut avec ça? La Gemara, elle veut dire que quoi? Que, premièrement, ils ont des relations avec les vivants, ils s'intéressent aux vivants. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle m'envoie mon peigne et mon farajou, en vérité, à part sa mère, donc sa mère était encore vivante. Il explique Rashi, le commentateur, qu'en vérité, elle avait de la peine, et elle savait que sa mère avait de la peine qu'elle soit morte aussi jeune, puisqu'elle était encore à l'âge où elle pouvait se maquiller, se peigner, etc. Et donc, elle a dit à sa maman, j'ai beaucoup de peine pour ça, moi aussi, d'être partie. Donc, la Gemara, elle veut dire que, donc, d'abord, ils s'intéressent à ce qui se passe chez les vivants, et que deuxièmement, ils ont des liens avec les vivants, et qu'ils savent ce qui se passe chez les vivants.
C'est quoi Plonita?
Comment?
C'est quoi Plonita?
Plonita, madame X. Plouni, c'est le féminin de Plouni. Plouni, c'est monsieur X. Plonita, c'est madame X, Y.
Un tel.
X. D'accord, c'est l'expression en hébreu.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Hein?
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Non, elle a dit, la morte, elle a dit à Zéhiri, ton argent, il est là-bas, sous le perron de la porte, et en même temps, va voir ma mère et tu lui dis qu'elle m'envoie mon peigne et mon farajou avec madame Ben Kemoun qui va venir me rejoindre bientôt. Quoi? Elle va mourir. Elle va me rejoindre, elle va mourir. C'est ça la blague, demain tu joues avec nous. D'accord? Donc la Gemara a dit que, je vais reprendre, la Gemara a dit donc c'est la preuve qu'ils savent ce qui se passe. Puisqu'elle savait aussi que madame Plunita, elle allait venir, etc. Donc elle sait bien qui c'est qui va mourir, donc ils ont un lien avec ce qui se passe dans le monde des vivants. Savoir qui va mourir demain, la Gemara dit non, ça veut rien dire. Donc tous ces non que la Gemara dit, en fait c'est pas des affirmations, c'est des suppositions. Mais le fait que la Gemara elle émette toutes ces suppositions, c'est que elle voudrait établir un mur entre les vivants et les morts. Et on essaye de fissurer ce mur, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a vraiment un mur? Et de quelle forme il est ce mur? Je vais reprendre cette question-là. Et la Gemara a dit, non, c'est pas obligé. Dilma peut-être, Douma, c'est l'ange Douma, qui est l'ange de la mort. Il a plein de noms, l'ange de la mort, mais un de ses noms, c'est Douma. Douma, ça veut dire le silence, le calme. Kadim, c'est lui qui prend les devants, ou Marie Léo, et qui annonce en haut qu'il va mourir. Donc, ça veut dire que le fait qu'elle sache que Madame Plunita, elle vient demain, c'est pas une preuve qu'elle sait ce qui se passe en haut. Bon. Alors, il faut maintenant un peu élargir en deux secondes. Le monde des vivants et le monde des morts, bien sûr, c'est des mondes séparés. Normalement, quand un mort il est mort, c'est fini, on le laisse tranquille, faut pas laisser les morts, pas parler sur eux, etc. Et on n'a jamais vu que les morts, ils interviennent avec nous. Mais, malgré tout, il y a des points de rencontre. Par exemple, il y a un interdit, on va revoir, il y a un interdit de la Torah qui s'appelle Doresh el Hametim. Questionner les morts. D'accord? Tout ce qui est la nécromancie, tout ce qui est tourner les tables, tout ce qui est avec les ossements, etc. C'est un interdit de la Torah. Or, il y a deux manières d'aborder cet interdit de la Torah. Le Rambam, lui, qui est le roi des Cartésiens, lui dit, c'est normal que la Torah interdise, parce que c'est la plus grande des bêtises. D'accord? Ça n'existe pas. Les morts, ils sont morts, ça n'existe pas. Bon, mais le Rambam, lui, il est hyper cartésien. Tout ce qui est le domaine de la sorcellerie, tout ce qui est le domaine de la nécromancie, tout ce qui est ces domaines un peu du paranormal, le Rambam, il a tracé un trait. Pourquoi? Parce qu'il était tellement dans une... Enfin, pourquoi? Il y en a qui veulent dire, mais oui, c'est normal, parce que Maïmonide, il a tracé la voie du cartésianisme juif, d'accord? Et donc... Non. Lui, pour lui, le Rambam... Je vous dis ce qu'il dit, le Rambam. Le Rambam, il dit toutes les histoires, les anges, les morts, les âmes, les ci, les ça, la magie noire, tout ça, c'est du bluff. D'accord? C'est du bluff, c'est pour les petites gens, pour les âmes, qu'on peut influencer. Et tout ça, oublié. Voilà d'ailleurs pourquoi la Torah l'a interdit. Parce que la Torah veut nous protéger du bluff de toutes les idolâtries de l'époque. Ok? Sauf que, en disant ça, le Rambam, il se met quand même à mal avec beaucoup d'histoires de la Gemara qui montrent que c'est des réalités. La Gemara, elle n'est pas là pour raconter des histoires de grand-mère. Donc quand la Gemara, elle parle des morts, des âmes, quand la Gemara, elle parle de toutes les histoires de magie, etc., c'est une réalité. Pour nous, ça n'existe plus dans notre monde parce qu'on a éliminé tout ça d'autre monde. Mais en réalité, c'est des choses parallèles qui existent. Moi, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais nos ancêtres, ils ont vécu avec ça. Donc, il y a deux manières de voir. Soit de dire que le Rambam, il avait les yeux fermés sur tout ça, et pour lui, ça n'existait pas. Soit plutôt, qui est plus élégant, parce que ça sauverait le Rambam de toutes les contradictions qu'il aurait avec la Gemara, de dire qu'il était dans une génération de gens qui étaient trop imprégnés par toutes ces histoires de mort et d'âme et de magie, etc. Et il a voulu éliminer tout ça. D'accord? Alors, pour pousser un petit peu le bouchon, d'ailleurs c'est très bien, parce que vous savez que la semaine prochaine, on commence le livre de Vaïkra. D'accord? Donc Vaïkra, c'est les sacrifices. Vous avez tout un livre sur les sacrifices. Les sacrifices comme ça, comme ci, comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de sacrifices. Rambam, dans le Moré des Mouchim, dans le guide des égarés, donc en soi-même, il porte son nom, il dit, mais je vous ai expliqué, messieurs, tous les sacrifices, c'est uniquement pour écarter les hommes de l'idolâtrie. De tout temps, il y a eu l'idolâtrie, et l'idolâtrie avait ses sacrifices. Les Juifs, ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Et ils étaient imprégnés d'une civilisation idolâtre qui offrait des sacrifices. Donc, la Torah a voulu récupérer ça, d'accord? Et lui donner ses lettres de noblesse. Donc, on a réorienté les sacrifices dans le culte divin. Ça, c'est le Rambam dans Moré Nevouchim. Hein. Là-dessus, tout le monde lui saute dessus, mais au bazooka, au RPG presque. Hein. Parce que ça n'a pas de sens, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça sous-entendrait que la Torah, c'est une Torah temporelle, et que les lois qu'elle a données, c'est uniquement pour les esprits faibles, et que toutes les lois, tous les détails, comment on ferait avec tous les détails des sacrifices, et comme ci, et comme ça, et de telle manière, tout ça, ça serait tout du bluff. C'est trop gros. Donc, force est de dire, et ça on est forcé en tout cas dans le principe des sacrifices, de dire qu'en vérité, son livre, c'est le livre des égarés. D'accord ? Et qu'il y a une manière de parler aux juifs de base, d'accord ? Et il y a une manière de parler aux juifs qui est très très loin. Un juif qui est très très loin, tu vas lui raconter l'histoire des sacrifices, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où on est ? Tu vas raconter l'histoire de magie, les âmes, les ci, les ça, mais il va dire, où on est ? Alors pour lui, il y a Maïmonide, qui a écrit le guide des égarés, Moré Nevouchim. Les gens perdent. En fait, c'est pas égaré, la traduction elle est un peu juste, c'est le guide des perplexes. Les gens qui sont perplexes. Navour, c'est perplexe. Et donc la réalité, disons que c'est le plus élégant à dire, c'est que Rambam, bien évidemment, il reste un orthodoxe dans la pensée, et qu'il accepte ce qui est marqué dans la Gemara, et qu'il n'est pas là pour tout mettre en l'air. Mais, disons que pour des gens qui sont loin, c'est plus facile de leur présenter Maïmonide que leur présenter la Gemara pure. Ok, jusqu'à là on est bon. Donc, une fois qu'on a dit ça, en tout cas la Gemara, elle admet toutes ces choses-là, elle admet ça. Mais malgré tout, il y a ce qu'on appelle Doresh à la Métine. Doresh à la Métine, c'est un interdit de la Torah. Le Rambam, quand il parle de ça, il dit, mais c'est du bluff ça. D'accord ? Mais je vous ai déjà mis les guillemets qu'il faut mettre à toutes les paroles du Rambam. En tout cas, c'est elle qui dit dans le guide des égarés. Mais la réalité, c'est le Rambam et tous les autres commentateurs, ils disent que si la Torah, elle a parlé de ça, c'est que c'est une réalité. Et qu'on peut avoir contact avec les morts, et que les histoires, les tables qui tournent, etc., tout ça, c'est quelque chose qui existe, mais la Torah nous interdit. La Torah veut que le monde des vivants et le monde des morts soient séparés, et qu'on n'aille pas faire des choses qui s'apparentent à l'idolâtrie. Parce que dès qu'on avance là-dedans, ce sont des terrains qui sont proches de l'idolâtrie. D'accord ? Les idolâtres, ils faisaient beaucoup le culte des morts. Les Égyptiens, dans toutes les civilisations. Et la Torah ne veut pas. La Torah, elle veut qu'on soit tamim. Alors, et ça, c'est un tamim tiyem Hashem Elokecha. Il y a un verset dans la Torah qui dit on doit être intègre et entier avec Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas essayer d'anticiper les choses. Sauf si Hashem il nous dit, il y a une prophétie, oui, mais on ne doit pas chercher à savoir en demandant les morts pourquoi, comme ça, renseignement, etc. Donc la Torah veut que on s'appuie sur Hashem et non pas qu'on essaye de trouver des dérivatifs en demandant aux morts. Donc voilà pourquoi la Torah l'a interdit. À part ça, la Torah ne veut pas qu'on s'approche de tout ce qui ressemble à l'Avodah Zarah, donc tout ce qui est la magie, la sorcellerie, la nécromancie. La Torah te dit, oui, c'est vrai, oui, ça existe, mais tu ne dois pas t'approcher de ça. Ok ? Donc, une fois qu'on a...
Ça existe.
Oui, ça existe.
Oui,
c'est une réalité.
Ça tient la route.
C'est une réalité.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est une réalité. D'accord ? Les âmes, les réincarnations, les e-books, tout ça, et c'est des grands maîtres qui en parlent. D'accord ? Pour nous, ça nous fait doucement sourire, parce qu'on est dans un monde hyper cartésien, et dès qu'une chose elle sort de la limite, dès qu'on parle d'homéopathie, on dit oh là là, d'accord. Quand t'es un médecin traditionnaliste, l'homéopathie, il a fallu que des siècles pour que on arrive à dire non, mais c'est possible que, d'accord. Quand on parle de la mémoire de l'eau, l'autre il s'est fait fusiller. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont borderline, d'accord. Mais et dans notre génération, on touche pas. Mais l'Agmar elle en parle et c'est une réalité admise. Par exemple, le D-book, le comment on appelle ça en français, hein?
Démon.
Non, pas démon. Oui. Non.
Une réincarnation.
Une réincarnation dans un être vivant.
Dans un être vivant.
Tu sais, le D-book, vous connaissez tout le truc du D-book. C'est une âme qui vient de se coller à une autre âme. Bon, ça nous fait doucement sourire, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Mais les sages de l'ancien...
Hein? Un Gilgou aussi.
Le Gilgou, c'est autre chose, justement. Le Gilgou, c'est une âme qui vient se réincarner dans un autre corps. Mais c'est une seule âme dans un seul corps, mais simplement elle revient. Le D-book, c'est autre chose. C'est des âmes flottantes, des âmes qui cherchent une réparation parce qu'elles ont fait trop d'erreurs, et donc elles viennent intégrer le corps d'une autre personne, et ou le déranger, ou l'embêter jusqu'à ce qu'elles cherchent leur tikkun. D'accord ? Les réparations des âmes. Or ça, pourquoi je vous en parle ? Parce que jusqu'à la génération d'avant, le Chafetz Chaim, Rabbi Elchanan Wasserman, ils racontent des histoires. En Europe de l'Est, il y avait des histoires de D-book qui étaient courantes. Alors vous allez dire, oui, les esprits cartésiens, ils disent, mais non, c'est pas des D-book, c'est des délires paranoïa, c'est tout ce que tu veux. C'est possible que là-dedans, il y avait. Mais il y a des vrais dibouks bon, où les rabbanim, ils parlaient à l'âme. Ils lui demandaient qu'est-ce qu'elle avait à réparer. Enfin, de toutes les époques, il y a eu des histoires comme ça. Donc, c'est une réalité. Moi, j'ai émouna dans les chachamim. D'accord ? Ce qu'ils disent les chachamim, je crois, j'ai émouna. C'est la base, c'est notre socle. Donc, ce qui est marqué dans la Gemara, j'ai émouna. Ce qui est marqué dans les sfarim, je crois. Quand le Chafetz Chaim dit quelque chose, je me garde à vous. Parce que sinon, si on commence à... Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara, à remettre en question tout, on détruit, on coupe la branche sur laquelle on est assis. Les fondements, c'est la émouna dans ce que dit la Torah, la émouna dans ce que disent les Chachamim, ça c'est nos fondements. Ok ? Et les fondements dans ce que disent nos ancêtres. Oui.
Je voulais te poser une question, ce qui concerne, tu sais, à Méron, ou des Iloulotes, lorsque où tu vas sur une tombe en Europe de l'Est, c'est pour t'imprégner de... Est-ce que ça rentre dans ce que tu dis?
Très bien, c'est une bonne question, viens, on va aller de côté. Donc pourquoi je vous ai introduit tout ça? Parce que c'est un interdit de la Torah de Doresh et la Métive, de questionner les morts, d'accord? Donc c'est quoi cette histoire-là, l'autre qui va au cimetière, il n'a pas questionné, il a entendu les morts parler. Mais celui-là, là, Zéhiri, il est parti au Khatsar Mavet, dans la cour de la mort, et il a demandé, il a dit, je veux voir Madame Benkemoun, mon aubergiste, où sont mes sous? Mais c'est un interdit de la Torah, ça, de Doresh et la Métive. Ok? Donc c'est un peu bizarre, toutes ces histoires-là. La Torah, elle veut pas, elle veut qu'on laisse les morts tranquilles. Ok? D'ailleurs, entre guillemets, notre fondement, et c'est d'ailleurs une question sur tous ceux qui sont trop cartésiens, si vous lisez le Tanakh, le roi Shaoul, il a été une fois interrogé à mort. D'accord? Il avait une problématique, etc. Il a été chercher le prophète Samuel, qui était décédé, et il a fait revenir son âme parmi les vivants pour lui poser des questions. Et Samuel, il a dit, mais enfin, tu peux pas me fiche la paix. Et il avait des questions à lui poser sur des guerres, etc. Donc c'est marqué dans le Tanakh, ça. C'est explicitement marqué dans le Tanakh que le roi Shaoul, il a fait remonter l'âme du prophète Samuel. Donc c'est une réalité. Alors, bien sûr qu'il a fait une erreur, c'était interdit, etc. Mais il avait tellement besoin qu'il s'est servi de ça. Ok ? Donc, on va garder cette question, je vais avancer un cran et vous allez voir pourquoi.
C'est pas posséder le dibouk ?
Oui, posséder. En français, on dit posséder. Posséder, mais c'est un terme un peu péjoratif. Ok ? Je fais l'histoire suivante et je vous conclurai sur les deux histoires. Tashma, deuxième histoire. Donc la première histoire, c'est Zéhiri. Tout le monde est bon ?
Oui.
Des abois des Shmuel, il y avait le père de Shmuel, d'accord, il s'appelait comme ça. C'est quoi le père de Shmuel ? C'est comme, quand on est des grands hommes, c'est le père, il est connu par le mérite de son fils. Shmuel, c'était un très grand rave de la Gemara. Le chaver de rave, c'était un des grands maîtres de la Gemara. Et son père, il s'appelait Abba. D'accord ? C'est son nom, Abba. On est marocain, il s'appelle Abba. Et donc, on l'appelait Abba des Shmuel, le père de Shmuel. D'accord ? Parce que c'est son fils qui avait donné les titres de gloire au père. Eh bien, ce Abba des Shmuel, avoue qu'à Mefagde Gabé, on lui laissait en gage chez lui Zouzé de Yatmé, l'argent des orphelins. Quand des orphelins, ils étaient petits, ils avaient hérité de leur père, il n'y avait pas les banques, etc. Donc, on les mettait en dépôt chez quelqu'un qui les gardait, ou il les faisait fructifier, ou il les gardait simplement. Et ce père de Shmuel, c'était un homme de... C'est ce que je dis. Il y a deux sortes. Il y a des banquiers et des apotropos. Apotropos, c'est celui qui gère les biens. D'accord ? C'est le tuteur. Et à ce moment-là, il gère les biens des orphelins, il achète des terrains, etc. Mais il y en avait d'autres. Le père de Shmuel, lui, il les gardait, en tout cas. D'accord ? Il conservait. Comme une banque. Zéou. Kinach Nafshe, quand il est mort, ce monsieur... Là, on va Shmuel Gabé. Shmuel, son fils, n'était pas avec lui. Et donc, il est mort avec le secret de l'argent des orphelins. Abou Kakarele. Et donc, on surnommait à partir de ce jour-là Shmuel, Bar Achil Zouzadeyatme, l'enfant qui mange l'argent des orphelins. Parce qu'on dit, ah ben c'est bon, ton père il est mort avec l'argent des orphelins sans dire où il est. Et toi maintenant, tu fais la belle vie avec l'héritage. C'est quoi ? Bon, les gens, ils sont pas gentils. Hein. Azal Abatré, de nouveau, il est parti le voir, le Khatsar Mavet, dans sa fameuse cour de la mort. Ok ? Donc il est allé, juste quelques temps après la mort de son père, il est allé à sa recherche dans Khatsar Mavet. Amarle, quand il est arrivé là-bas, donc Khatsar Mavet, d'accord, on va appeler ça, on pourrait l'antichambre des morts. Ça serait une sorte de sas. Mmh. C'est intéressant l'idée du sas, d'accord ? Son père, il est mort il n'y a pas longtemps, ok ? Il n'est pas encore très haut dans les sphères célestes. Il est dans une sorte de sas intermédiaire qu'on appelle la cour des morts. Chatzar Mavet. Amar Léou, il leur a dit, Ba'ina Abba. Je cherche Abba. Très bien, très bien. Voilà. On va voir ça. En tout cas, voilà, on a appelé ça la cour de la mort. D'accord ? Peut-être, comme il dit Hillel, c'est peut-être une cour à l'entrée du cimetière. On va voir. Amar Léou, et il leur a dit, donc, quand il est arrivé à Chatzar Mavet, il parle. Et il dit aux morts, aux âmes, il dit à quelqu'un, Ba'ina Abba, je cherche Abba, mon père. Amroulé, il lui en dit, Touba Abba Ika Acha. Il y a beaucoup de papa ici. Abba, ça veut dire papa. Tu cherches mon père. Quelqu'un qui arrive chez les morts au cimetière, il dit, cherche mon père. Il dit, mais il y a beaucoup de pères ici. Alors il a dit non. Ba'ina Abba Bar Abba. Mon père, il s'appelle Abba Bar Abba. Père, fils du père. C'était le surnom, comme chez les Américains, ils ont le même nom que leur père, d'accord ? Lui, il s'appelait Abba Bar Abba. Bon. Amroulé, ils lui ont dit, mais attends, Abba Bar Abba, Nami, des Abba Bar Abba, des pères, fils de pères, aussi, Toubaïkara, il y en a beaucoup ici. Alors, il a dit, bon, si vous cherchez des histoires, je sors mon joker. Amar Léou, Ba'ina, je cherche Abba Bar Abba, Aboua de Shmuel, le père de Shmuel, c'est-à-dire moi. D'accord ? Or, lui, le père de Shmuel, nous, on connaît. D'Abba Baraba, c'est-à-dire son père, même dans Olam Emet, le père, il était connu comme étant fils de Shmuel. Amroulé, regardez bien, ils lui ont dit, Salik les Metivta de Rikia. Il est monté à la Yeshiva céleste. Donc ça veut dire que toi, tu viens ici. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, après, pour l'histoire, c'est plus facile de comprendre. Pourquoi je m'arrête là ? Ça fait deux histoires, on voit, il cherche, etc. Et Shmuel, le problème, c'est que Shmuel, c'était un Kohen. D'accord ? C'est marqué dans la Gemara que ce Rav Shmuel, c'était un Kohen. Donc tout le monde demande, il m'attend, un Kohen, qu'est-ce qu'il fait au cimetière ? C'est un interdit de la Torah, un Kohen, il ne peut pas rentrer au cimetière. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il parle aux morts, il va dans la cour de la mort, comme il a dit Hillel, il va là. Alors, il y en a qui disent, non, c'est pas, c'était l'antichambre. Mais en vérité, le Maharsha et d'autres commentaires disent, stop, il faut mettre les choses au clair. De toute manière, on a un problème de s'adresser aux morts. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires qui sont arrivées dans le rêve. Ça veut dire que les Chachamim à l'époque, ils avaient la possibilité de s'adresser dans le cadre du rêve. Ils faisaient des rêves comme un peu un rêve prophétique. Ça aussi, ça fait partie de nos standards. Dans les niveaux de prophétie, d'accord, il y a la prophétie éveillée, d'accord, ça c'est la prophétie de nos prophètes, avec la personne debout. Il y a la prophétie qui terrasse l'homme, c'est la prophétie de Bilam. C'est marqué Bilam, Nofel, Ogloul et Naïm. Bilam, c'est aussi un prophète. Sauf que c'est un prophète qui n'avait pas la force de supporter cette puissance de la prophétie. Et dès qu'il prophétisait, il tombait. Et enfin, il y a des degrés de prophétie encore inférieurs, qui sont des niveaux de prophétie qu'on a dans le cadre du sommeil. Alors la Gemara, elle dit comment on peut savoir, etc. Chacun sait, il y a le rêve. Mais un rêve, ce n'est pas une prophétie. La Gemara dit, par contre, il y a, et on avait dit ça dans le bonhomme, vous rappelez le bonhomme qui s'est bagarré avec sa femme, qui est porté au cimetière. On dit, il est un peu timbré, celui-là, un sort de Rosh Hashanah, tu pars au cimetière, tu bagarres avec ta femme. Ça va, tu te bagarres bien sec, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu ne vas pas dormir au cimetière. Donc en réalité, dans la même veine, ce qu'il dit le Maharsha, c'est qu'en réalité, tous ces gens-là sont des gens qui avaient une problématique et qui ont dormi, et qui ont cherché la réponse à leur problématique dans le cadre de leur sommeil. D'accord ? Qui ont fait une tefila où ils... Alors, à l'époque, comme ça dit le Maharsha, les gens, ils avaient presque un contrôle de leurs rêves. Ils pouvaient demander à rentrer en contact dans le cadre des rêves. D'accord ? Et donc, ça s'appelle Baal HaChalomot. C'est être maître, Baal HaChalomot, le maître des rêves. Et donc, ce chassid-là, et donc ça explique, parce qu'on a dit c'était un chassid qui s'est bagarré avec sa femme, ok ? Qu'est-ce qu'il fait dans le cimetière ? Donc en réalité, pas du tout. Il est allé se coucher, il a dit, bon, allez, c'est bon, fiche-moi la paix. Il est allé dormir, c'était le soir de Rosh Hashanah, et on sait que les rêves de Rosh Hashanah, ça c'est la Gemara qui le dit, ils sont porteurs de vérité. Et donc c'est dans le cadre de son rêve de Rosh Hashanah qu'il a rêvé toute cette histoire, etc. C'est comme une mini-révélation. La Gemara dit, comment on peut savoir ? La Gemara dit, si un rêve, c'est en fin de nuit. Les rêves de fin de nuit, sont parfois, je dis parfois, porteurs d'une mini-prophétie, encore plus quand ils se répètent. D'accord ? Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un. En tout cas, des rêves qu'on rêve parce qu'on a beaucoup mangé, beaucoup ci, beaucoup ça, ou qu'on a beaucoup vu la télé, ça c'est bien sûr, c'est ridicule. C'est la Gemara dans Brachot, dans le dernier pérec. Il y a tout un pérec qui explique, le 9e pérec de Brachot, qui explique le sens symbolique des rêves. Il y a une symbolique des rêves, d'accord, que maintenant on a perdu, mais la Gemara, elle s'intéresse à ça. Elle dit quand quelqu'un il rêve de ça, il rêve de ça, il rêve de ça, voilà ce que ça signifie. Alors, bien sûr, cette symbolique des rêves de la Gemara, c'est une symbolique, entre guillemets, freudienne. Ça veut dire que la Gemara, elle dit, bon, rêver de ça, ça signifie ça, rêver de ça, ça signifie ça. Mais la Gemara, elle continue, elle dit, parfois, il y a des rêves qui n'ont pas de sens psychologique, qu'on pourrait expliquer par une analyse quelconque. C'est un degré de prophétie. On t'a fait rêver quelque chose. Tu as rêvé quelque chose. Il y a des gens, chacun, il a fait des expériences comme ça autour de nous, de gens qui ont rêvé des choses à venir, etc. Et ils décrivent leurs rêves. D'accord ? Donc, un rêve de fin de nuit, en particulier le Shabbat, et encore plus Rosh Hashanah, ce peut être des rêves avec une portée prophétique. Donc, tout ça pour dire que toutes ces histoires qu'on va rencontrer dans la Gemara, d'autant plus celle de Shmuel qui était un Kohen, c'est pas possible qu'il est allé au cimetière. Et donc, tout ça, en réalité, ils avaient une problématique. Zéhiri, son père, l'aubergiste, elle est partie en lui volant son argent. Ça l'a tracassé, il a rêvé, et dans le cadre de son rêve, il a demandé, comme si c'était une tfila, comme si c'était une tfila Hachem, comme si vous vous couchiez, vous avez un énorme problème, d'accord ? Quelqu'un, il a un énorme problème, un problème de famille, un problème de santé, un problème d'argent, un problème de n'importe quoi. Il fait des tfilas toute la journée, d'accord ? Après, il va se coucher, il dit Hachem, éclaire-moi, aide-moi à trouver une solution, d'accord ? Cet éclairage, ça peut être un rêve, ça peut être une idée qui lui vient, et c'est ça que ces Rachamim l'a essayé. D'accord ? Donc maintenant, ça c'est ça l'histoire de Zéhiri. Il a dit qu'il avait perdu certainement beaucoup d'argent. Et donc il a demandé à Hachem, par le biais du rêve, de lui révéler où son argent était caché. Et donc Hachem lui a révélé ça par le biais de ce rêve-là. Maintenant Shmuel c'est pareil. D'accord ? Et donc Shmuel par contre, c'est plus compliqué. C'est un rêve dans le rêve. Ça veut dire qu'il a rêvé qu'il allait dans cette antichambre des morts, Chatzar Mavet, et que là, il appelait son père, etc. Effectivement, son père est venu. Donc, c'est une sorte... Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure le sas de transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Le rêve fait partie de ce sas de transition. D'accord ? Or, ça, c'est pas interdit par la Torah. On n'a pas le droit, dans le cadre d'être éveillé, d'invoquer les morts, mais par contre, dans le cadre du rêve, ça, on peut. Le rêve, c'est un point de passage entre ce monde des vivants et ce monde des morts. Et c'est ça qu'il a fait Shmuel. Jusqu'à là, vous êtes bon ? À peu près. D'accord ? On n'a pas...
Il a fait comme Shmuel, quand il a été voir la...
Non.
La femme qui lui a pris l'argent.
Ah, comme Zéhiri. Shmuel, il a fait comme Zéhiri. Voilà. Zéhiri, c'est la femme qui lui a pris l'argent, c'est ça ? Et Shmuel, c'était encore plus. Non, parce que dans Zéhiri, oui, ça revient en même, mais dans Zéhiri, il a perdu son argent. On va dire, il s'est couché, il dit, Hachem, révèle-moi. Hachem, il lui a... Si tu veux, il lui a montré cette femme qui lui a révélé les choses. D'accord ? C'est une prophétie. Mais lui, là, il dort et dit « Ah, super !» Dans l'histoire de Shmuel, c'est plus compliqué parce qu'il intervient. Il est là, il demande « Allez me chercher mon père, mais on ne connaît pas ton père. Allez lui dire ça, et lui dire ça, allez chercher à voir Shmuel. » Et on lui répond, etc. Donc, c'est un rêve beaucoup plus construit, beaucoup plus compliqué, où il y a une forme d'intervention de l'âme de Shmuel, ou de l'inconscient de Shmuel, dans le cadre de son rêve. D'accord ? Qui raconte ?
Est-ce que ça peut être prémonitoire ?
Oui, des rêves prémonitoires, c'est sûr que ça existe.
Non, mais est-ce que ça, dans ce cas-là, ça peut être...
C'est pas prémonitoire. Enfin, si vous voulez, ça peut être un peu prémonitoire, mais prémonitoire, c'est plus dans le cadre de quelque chose qui va se passer dans le futur. Par exemple, dans la première histoire de notre racine, ça c'est prémonitoire. Mais là, c'est plus un rêve informatif. Voilà. D'accord ? Il demande... Ouais, il y a... Mais ça, après... Vous avez les maïmonidiens purs, mais oubliez ça, parce que c'est... Enfin, c'est un peu... C'est un monde dangereux, voilà, entre guillemets, d'accord ? C'est un monde trop maïmonidien, pourtant, c'est tous les visions là. Mais je veux dire que cette partie-là, c'est un monde hyper cartésien. Bon, après, on a du mal dans nos textes, dans notre vie et dans ce qu'on connaît. Mais le... des messages qui sont envoyés à l'homme dans le cadre d'un rêve, ça, ça existe. De tout temps, ça existe. Moi, je connais, enfin, pas personnellement, mais nos parents, etc., des choses qui sont des réalités. Des choses qui sont des réalités, où ils avaient des révélations, ou des choses que, dans le rêve, ils percevaient, qui sont des vraies choses. Alors, revenons ici. Vous êtes bon ? Oui, non, ce que je voulais dire, parfois, ça existe de rêver de ses parents. D'accord ? Des parents, ou de rêver de défunts. Ok ? Ça arrive à tout le monde. C'est normal. On les aime, on les a languis, on rêve de son père, on rêve de sa mère. Bon, et après... Et parfois, oui, ça arrive, venu de nulle part, ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans, tout va bien, et tout d'un coup, tac ! Il arrive, il te parle, ou tu le vois. D'accord ? Ça, c'est explicité. La Gemara dit que quand un mort, il se révèle à quelqu'un de la famille, c'est qu'il a besoin de quelque chose. D'accord ? C'est la manière dont on voit le mort, etc., c'est qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'une tfila, il a besoin d'un sroute, il a besoin... Et quand on voit... La manière dont on voit le mort, s'il est souriant, s'il est bien, ça nous indique son état spirituel dans le monde futur. Nous, on ne peut pas savoir. Un état spirituel, ça ne veut rien dire. Mais quand on rêve, il faut être attentif. En tout cas, dès qu'on rêve d'un mort, il faut allumer un air et donner la tzedaka. Ça, c'est marqué direct. D'accord ? Allumer un air... Bon, alors vous allez me dire, mais allumer un air, etc. Non. Allumer un air, c'est l'affirmation... De l'éternité de l'âme de ce défunt. D'accord ? Et donc, quand on a rêvé d'un mort, allumer le nerf, ça veut dire que ce nerf-là, il symbolise cette âme qui est inaltérable. Donner la tzedaka, c'est parce que ce qu'on peut faire de mieux pour un iftar, ça lui donne un mérite. D'accord ? Donc, il ne faut pas laisser de côté toutes ces choses qu'on voit dans le rêve. Très bien. Alors maintenant, nous, notre histoire. Revenons à nos moutons. Shmuel. Il a perdu son père, qui est mort avec l'argent des orphelins. D'accord ? Il est très mal parce qu'on l'accuse d'être un voleur. Donc maintenant, il cherche une solution. Donc, soit la théorie pure, il est allé au cimetière, mais c'est pas possible, c'est un Cohen. Alors peut-être il n'est pas là au cimetière, mais il est allé à l'entrée du cimetière, mettons. Mais même ça, ça ne marche pas. Parce qu'à l'entrée du cimetière, il s'adresse à qui ? À l'entrée du cimetière, et il parle à des âmes. C'est qui ces âmes-là qui sont à l'entrée du cimetière ? On n'a jamais vu qu'on parle à des âmes à l'entrée du cimetière. Donc même ça, ça ne marche pas. Donc le Maharsha, il dit non, non. La réalité, c'est qu'on est comme Zéhiri, comme avant, comme le Chassid, c'est dans le Chalom. Ok ? Très bien. Et donc il dit, je cherche Abba. On dit, il n'y a pas. Abba Baraba, il n'y en a pas. Enfin, il y en a beaucoup. Il dit, je cherche Abba Baraba, le père de Shmuel. Qu'est-ce qu'on lui répond ? On lui répond, désolé, il est parti à la Yeshiva d'en haut. Ok ?
Alors,
attends. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'Yeshiva d'en haut ? Ça veut dire que lui s'est adressé au Chatzar Mavet, la cour des morts. Ça serait un endroit où les gens, ils sont en attente, en transition. D'accord ? On sait que les morts, il y a des paliers dans le monde, dans les mondes supérieurs. D'accord ? Il y a des... Qu'est-ce qu'on fait en haut ? L'âme, elle est éternelle. Qu'est-ce qu'elle fait après la mort ? Après la mort, alors, ce sont des mots, donc pour nous, c'est compliqué. Elle étudie. Bon, elle étudie. En réalité, c'est pas qu'elle étudie. Elle profite du dévoilement d'Hachem. D'accord ? Et ça, c'est des choses... Hachem, il est infini, donc son dévoilement, il est infini. C'est-à-dire, elle comprend tout ce qui s'est passé. L'âme, elle voit, elle comprend sa vie, elle comprend la vie. Donc, il y a du travail. Enfin, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à percevoir. Et l'âme, elle s'élève. Petit à petit, elle s'élève. Comme ça, le Rav Dessler, il a de longues explications là-dessus, où l'âme... Elle s'élève constamment après 120 ans. Une fois qu'elle est décédée, elle continue à s'élever. Et plus ses descendants ils font des mitzvot, plus l'âme, d'abord l'âme, elle profite de ce qu'elle a fait. Mais à part ça, tous ses descendants et ses arrière, tout ce qu'ils font permet à l'âme de s'élever. Donc il y a des âmes qui sont en position down, et il y en a d'autres qui s'élèvent. Okay ? Donc, ce Chatzar Mavet, ça a l'air d'être un endroit... où sont là toutes les âmes en attente de prendre l'ascenseur. Hein, donc, bon, je suis obligé de donner des images, d'accord, avec ce que ça vaut, mais disons que c'est à peu près ça que la Gemara essaie d'appliquer. Donc, il a dit, je cherche, il dit non, désolé, il est parti depuis longtemps, ton père, il a foncé, il a pris le TGV, il est monté à la Yeshiva d'en haut. Bon, d'accord. Regardez bien. Donc, Amroulé, vous êtes bon, Amroulé, ils lui ont dit, je suis 2, 4, Non, 2, 4, 6. 2, 4.
La sixième ligne.
Sixième ligne. Amroulé. Ouais, 2, 4, sixième ligne. Amroulé, ils lui ont dit, c'est bon, il est. Tu vas pas faire des cauchemars cette nuit, hein.
Salik.
Amroulé, ils lui ont dit, désolé, Salik, les métifs, ça des Rikia. Il est monté à la yeshiva du supérieur. Ça veut dire, lui, il a déjà réglé tous ses problèmes. Il est déjà parti là-haut, c'est mort. Adéachi, entre-temps, pendant qu'ils étaient en train de discuter, Shmuel, dans son rêve, hein, puisque maintenant on a admis ça, Chazier, les Lévis, il a vu un copain à lui, un Rav qui était défunt, Deyativ Abraï, qui était assis à l'extérieur. D'accord ? Il y avait certainement tous les morts, alors peut-être que dans ce Khatar Mavet aussi, on les occupe, ils font des trucs, quoi. D'accord ? Il y avait un chiour, niveau, je sais pas quoi, bon, c'est pas là, Yeshiva d'en haut. D'accord ? Parce qu'il y a, il y a des niveaux, il y a des niveaux supérieurs, il y a Matsup, Matpé, il y a tout en haut. D'accord ? De Torah. Ouais. Et il a vu son copain Lévi, Diativ Abraï, qui était assis à l'extérieur, à part. Tout seul. Il a dit, oh, et c'est mon copain là. Pourquoi il est pas assis avec tout le monde? Il est assis à la table du fond, là-bas, tout seul. Amarle! Alors il lui a dit, Shmuel, il l'a questionné, à l'âme du mort, de Lévi. Amai, Yativat Abraï. Mais pourquoi tu es assis à l'extérieur, toi? Tu peux pas être avec tout le monde? Maïta Ama. Et deuxièmement, pour quelle raison, l'Osalak, tu es pas monté? À part que tu es assis à l'extérieur, mais normalement, tu devrais être monté comme mon père, tu devrais déjà être très haut, toi, très élevé. Amarle, regardez ce qu'il a répondu. Des Amreli, on m'a dit, Kol Anar Shane, toutes les années, des Los Likat, que tu n'es pas rentré, les Metivta de Rabbi Apas, à la Yeshiva de Rabbi Apas, de Achlishte les Daate, et tu as affaibli son moral, Lomaili Nanlach, on ne te fera pas monter les Metivta de Yerikia à la Yeshiva du ciel. Je m'explique. Il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi, c'était Rabbi Uda Anassi, Rabbi. Quand il est mort, il a dit, voilà, je désigne, celui-là il va être comme ça, celui-là il va être Rosh Yeshiva, celui-là il va être Dayan. Il a laissé la suite, c'est normal, pour pas laisser de balagan. Et il a nommé un Rav pour être Rosh Yeshiva. Bon. Et ce Rav, il a dit, non, il y a un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Apas, c'est son nom, qui est plus âgé que moi, je ne veux pas être Rosh Yeshiva. Donc, il lui a laissé sa place. Rabbi Abbas, c'était un grand maître. Et lui, qui aurait dû être Rosh Yeshiva, il n'est pas rentré non plus au chiour du Rosh Yeshiva. Il est resté à l'extérieur. Bon, c'était des grands maîtres, alors il va pas. Il a laissé sa place au Rosh Yeshiva, il ne va pas aller lui, c'est pas un barreau. Lévi, qui faisait partie de la bande des Rabbanim, il a dit, je ne vais pas laisser mon copain dehors. Donc il n'est pas non plus lui rentré. Mais ça fait une mini-révolution de palais. Pourquoi ? Parce que le Rabbi Apas, c'était un grand maître qui a pris la place du maître précédent comme Rosh Yeshiva. Oui, et bien il n'y a pas tout le monde. Les deux grands pontes, d'accord, dont Lévi, ils sont dehors. Et ça affiche mal. Oui, c'est toujours, je m'arrêterai. Et donc, on lui a dit, tu sais Rabbi Apas, il n'a rien dit parce qu'il est un homme âgé, il ne va pas tout faire du scandale. Mais ça lui a fait mal au cœur. Toutes les années où tu lui as fait mal au cœur, tu ne monteras pas la Yeshiva mort. D'accord ? J'ouvre une parenthèse que je raconte éternellement, une histoire qu'il a racontée à Moshe Feinstein. Alors Moshe Feinstein, c'est un des grands maîtres aux États-Unis, contemporain. Il est mort il y a une cinquantaine d'années. Il avait une grande Yeshiva. À la fin de chaque Zman, à la fin de chaque période d'études, il réunissait tous les élèves de la Yeshiva. Il a dit, regardez, vous allez rentrer chez vous, passer des vacances, d'accord ? Vous allez vous reposer, voir les parents, d'accord ? Et allez vous reposer, c'est normal. Il a dit, une chose je vous demande. Quand vous allez rentrer dans vos villes respectives aux États-Unis, donc dans tous les États-Unis, il y avait 380 élèves, vous allez aller dans la choule. Oui. Une chose je vous demande. Quand le rabbin de la choule, il fait un chiour, vous l'écoutez. C'est pas vous mettez au fond avec un livre. Les religions, en général, comme ça, ils font. D'accord ? Quand ça ne les intéresse pas, ils se mettent dans un coin, ils font le télim, ils prennent la guémara, genre ce qu'il dit celui-là. D'accord ? Partout c'est comme ça, partout c'est comme ça. Et c'est même si c'est inintéressant, même si c'est, il a dit, vous taisez, vous écoutez et vous montrez intéressé. Il dit pourquoi ? Parce que vous allez partir, d'accord ? Ceux qui restent, ils vont dire, tu as vu, Quand le religieux, il est venu, le Bachur Yeshiva, ou le Rav, ou le qui vous voulez, il n'a même pas écouté notre rabbin. C'est que notre rabbin, ça ne vaut rien du tout, ses discours, ses bidons. Déjà, on ne l'aime pas beaucoup, parce qu'en général, les rabbins, ils sont... Agmara dit qu'un bon rabbin, c'est un rabbin qui n'est pas aimé, parce que ça veut dire qu'il rentre dans les fidèles. Mais si vous n'écoutez pas le Rav pendant qu'il fait la dracha, vous allez le diminuer aux yeux de ceux qui l'écoutent. Donc il dit, c'est ça que je vous demande. Étudiez, c'est votre problème. Vous l'étudiez, vous ne voulez pas étudier, c'est pas grave. Moi, ce que je vous demande, c'est d'écouter le maître de la choule où vous allez. D'accord ? Et c'est quelque chose de tellement, tellement vrai et tellement constant. D'accord ? Moi, je fais toujours la guerre aux gens que je connais. Parce que c'est une tendance aux gens. Tu vois, tu arrives dans un endroit, bon, c'est le rabbin X ou le rabbin Y. Bon, ça va. C'est des fois intéressant, des fois moins intéressant. En tout cas, je ne suis pas à ce niveau, moi. Je fais la guémara, je fais aussi. Non, tiens, ouais, rien, aucun niveau. Le niveau, c'est de ne pas lui faire de peine. C'est beaucoup plus important que la fin. Et on voit ici que Lévi, c'est un grand maître. D'accord, ça va, il n'est pas rentré au chiour de l'autre, puisqu'il, et l'autre il lui a laissé sa place, c'était tous des copains. Mais il dit non, tu lui as fait de la peine. Ça lui a fait de la peine pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et bien pendant 50 ans aussi tu resteras en bas, à l'extérieur de la yeshiva avant de monter en haut. D'accord? Donc ça c'est ce qu'il a répondu Lévi. Vous êtes bon là? Alors on n'est pas obligé de rentrer, d'accord? Mais ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'aller forcément à tous les cours. Mais si tu es là, t'écoutes. Tu fais semblant que ça t'intéresse. Donc. Et donc, Lévi, il a dit, voilà, j'ai expliqué pourquoi...
Le temps, il passe très vite, là-bas. Le temps, il passe très vite.
Ah, très bonne question. Le temps, il passe très vite. C'est-à-dire que le nombre d'années, ça veut dire que...
Si tu dis que c'est... Batak Varot.
Ouais. Non, c'est un chalom.
Ok.
Alors, Mistama, que, il a raison. C'est quoi la notion de temps après 120 ans? C'est l'éternité.
Ouais.
D'accord? Donc, Mistama, c'est... Mistama, ça veut dire que quoi? Que tout ce qui se passe dans le monde futur, c'est toute la sensation. D'accord? Chaque fois qu'on parle du monde futur, le Gehinam, le ci, le ça, tout ça, comme il dit le Rav Dessler, c'est uniquement de la perception. Ça veut dire, il dit, quand vous lisez dans des vieux textes, on vous dit, il a brûlé au Gehinam, etc. La Rav Dessler, mais non, qu'est-ce que tu vas brûler? C'est une âme, elle ne brûle pas une âme. Il dit non, brûler, c'est brûler de honte. Qu'est-ce qui va se passer au Guinam? On donnera des comptes. On nous montrera la vérité. Et quand on te montre la vérité, on te montre ce que toi tu as fait, tu deviens rouge de honte. D'accord? C'est ça le Guinam. Et tu sais pas plus le Guinam. Parce que le Guinam, c'est la prise de conscience de nos propres erreurs. D'accord? De nos faiblesses. Et ça, c'est ça, ça brûle quand on prend conscience de ses propres erreurs. C'est ça notre punition. Pas plus. C'est une âme. Donc, on peut imaginer qu'il y a des niveaux dans la prise de conscience. Et donc, pour répondre à sa question, le nombre d'années, c'est simplement un degré de perception. Ça veut dire que plus c'est, le temps, il est transformé en intensité.
C'est bon.
E égale MC2. L'intensité, c'est-à-dire que au lieu de te faire honte un petit peu pendant 5 minutes ou une heure, alors tu as beaucoup honte. C'est comme si tu avais honte pendant longtemps.
Voilà.
Lévi, d'accord? Il était mis de côté. D'accord?
Tout est relatif.
Ça lui a fait beaucoup de mal, là, Lévi, d'être mis de côté. On lui a dit, tu auras un gros mal, comme si tu avais été absent de la yeshiva pendant 5 ans. Les 5 ans où tu as fait de la peine à Rabbi Afas. En vérité, il n'y avait ni 5 ans, ni 3 ans. Mais il a eu très très mal, comme si c'était 5 ans de dehors.
Okay.
Tu comprends? C'est une intensité de la peine.
Et là maintenant, il avait encore mal. Il avait encore,
Au moment où Shmuel il est arrivé,
il
était encore, il souffrait encore. Ça devait faire il n'y a pas longtemps. Adéachivéachi, entre-temps, Abba Abua, il est arrivé Abua, il est arrivé papa, le père de Shmuel. Chazier, alors Shmuel, il a vu, Adéachivéachi, que son père, il pleurait et il souriait. D'accord? C'est une expression typique de la Gemara, c'est-à-dire, il avait un sourire un peu peiné. Son père. Amarle, il lui a dit, Maïta Amakabachi, papa, pourquoi tu pleures? Vous imaginez ce rêve comme il est long? Amarle, il a dit, c'est pourquoi je pleure, Del Agal Atit, parce que bientôt tu vas venir. Je sais que bientôt tu vas mourir. Et ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que tu fais beaucoup de travail, tu fais beaucoup de mitzvot, et puis même moi je profite de ce que mon fils il fait des mitzvot. Et après il dit, et Maïta Amachicht, et pourquoi tu rigoles si je vais mourir bientôt? Amarle, il lui a dit, De Chashivat, parce que tu es important. Mais aïe Alma, dans ce monde dans lequel je suis, tout bat beaucoup. Je suis heureux, parce que c'est vrai que tu vas mourir et qu'il faut bien une fin à toute chose. Mais là-haut, on te prépare le tapis rouge, quand Shmuel y va arriver. C'est un très grand Shmuel. Amarle, alors il a dit à son père, écoute papa, son père il était redescendu de la yeshiva, parce qu'on lui dit vous êtes demandé en bas là. Amarle, il lui a dit, Ichashimna, papa, si vraiment je suis important en bas, j'ai une demande, Ne'ailou les Lévi, faites remonter Lévi, ramène les Lévi avec toi, tu dis, tu intercèdes en haut, pour que par mon mérite, on arrête de faire de la peine à ce Lévi. D'accord, il n'a pas bien agi, mais faites-le remonter. Bon, et c'est ce qui s'est passé. Ve'ailou les Lévi, et ils ont fait rentrer, Aïlou, ils ont fait rentrer Lévi dans les Yeshiva. Oh, Shmuel, il a pris avec lui, il est reparti. Amarle, avant qu'il reparte, il lui a dit, hop, zouze de yatme echa. Il a dit, l'argent des orphelins, où il est? Papa, c'est ça pour ça que je suis venu. Amarle, il lui a dit, zil shaklinu, vas-y le chercher. Be'amta de rechaya, dans le socle de la meule. Vous savez que, avant, il y avait, si vous avez dit dans des vieux dessins, il y avait des meules, que ce soit les meules à olive ou les meules à blé. Ce sont deux grosses pierres, d'accord, avec une sorte d'entonnoir. On verse dans l'entonnoir, ça passe entre les pierres et après on tourne les pierres et ça écrase comme ça. Au lieu de faire comme ça, c'est avec le mouvement de la roue et ça écrase, d'accord. Donc il y a le socle et la pierre du dessus et la pierre du dessous, d'accord. Il a dit, tu sais où je les ai mises? Je les ai mises sous le socle de la meule. Tu vas chercher là-bas la grosse pierre en dessous. Il a dit, attention. Là-bas, il y a plein d'argent. Il a évétata et...
La quelle pierre?
La pierre du socle de la meule.
Celle d'en bas?
Celle d'en bas. Le socle, c'est celle d'en bas, pardon. Okay. Il a évétata et... Tu verras, il y a plusieurs couches d'argent. C'est des pièces, c'est pas des billets. Il a évétata et... Les pièces du dessus et les pièces du dessous, Didan, c'est les nôtres. D'accord? Il y avait certainement beaucoup d'argent. Au métier et toutes les pièces du milieu, des yatmé. C'est aux orphelins. Amarli lui a dit, Maitama avatari, pourquoi t'as fait comme ça? Amarli, je t'explique. Ignouvé, ganvé, s'il y a des voleurs qui vont venir et qui vont soulever la pierre, qui vont trouver, miganbou, midan, ils vont s'occuper que de la première couche, c'est les nôtres, ils vont nous voler notre argent. Et ils vont laisser l'argent des orphelins. Certainement, il y avait des couches avec de la terre au milieu, il a bien fait, bien protégé. Donc il a mis plein de pièces, c'était les siennes, après de la terre, et après de la, et encore de, celles des orphelins, encore de la terre et celles, et les siennes. Donc au-dessus, il a mis les siennes, en dessous, les siennes. Il a dit, si les voleurs y viennent, ils vont nous voler les nôtres, ils vont pas nous voler l'argent des orphelins. C'est très important. Et Yachlar, ah, et si c'est la terre qui mange les pièces parce qu'à cause de l'humidité, elles vont rouiller, Arla Medidan, elle va rouiller aussi les nôtres. Et celles des orphelins, dans tous les cas, elles seront protégées. Donc la Gemara, elle dit, Alma. Donc bon, l'histoire s'arrête là.
Mais c'est moi aussi manger ça des tomes.
Non, parce que la terre, elle va, c'est l'humidité qui remonte comme ça, elle va manger en premier les premières pierres qu'elle trouve, c'est-à-dire les pièces, les leurs. Enfin, on va pas rester 20 ans.
Les yétomines, c'est dessous les...
Non, il y a les siennes, il y a trois couches. Il y a les siennes, les yétomines et les siennes, encore aussi. Les voleurs, s'ils prennent, ils prennent les siennes. Et la rouille, elles prennent les siennes aussi. Et celle lumière, a priori, elles seront protégées ce qu'on peut.
De rang, il va être protégé.
Non,
il y a trois couches.
Ouais.
Les siennes, enfin celles du chemin.
Ouais, alors celles de en haut, tout
en haut. C'est les voleurs.
Ah, ok.
Au milieu, c'est les orphelins, ça ne sera pas touché. Et en bas, c'est les siennes, c'est la rouille. D'accord, okay. Donc la Gemara, elle termine ça. Shmuel, il s'est réveillé et il est parti récupérer l'argent. Il l'a rendu aux orphelins. Donc la Gemara, elle dit Alma, donc, des yad, et ça prouve qu'ils savent. Qu'est-ce qu'on prouve de toute cette histoire? C'est-à-dire, bon, c'est en nous embarquer dans des mondes supérieurs. Mais en tout cas, la Gemara dit, tu vois bien que les morts, ils savent ce qui se passe, puisqu'il a dit, il a dit, tu vas bientôt venir. Donc, ils savent ce qui se passe dans le monde des vivants, comme dans l'histoire d'avant. Ça veut dire, donc, on voit bien qu'il y a un lien. Alors, en vérité, qu'est-ce qu'on cherche comme lien? Est-ce qu'on cherche un lien de contact? Est-ce qu'on cherche un lien de connaissance? Est-ce qu'on cherche un lien d'intérêt? On cherche tout en même temps. Tout ce qu'on peut trouver, la Gemara essaye d'attraper, de montrer qu'il n'y a pas une muraille. D'accord? Alors pour l'instant, elle a trouvé des liens, mais ce sont des liens, pour l'instant, qui sont que dans le rêve. Donc ça reste des liens un peu éthérés. Mais la Gemara dit, même si c'est dans le rêve, tu vois bien que les âmes des morts, elles savent ce qui se passe chez nous, puisque le père de Shmuel, il a dit, tu vas bientôt venir, donc ils savent ce qui se passe.
La Gemara dit, mais... Comment ça se fait que les morts sont au courant de l'avenir?
Ah! C'est ce que la Gemara demande, la Gemara dit,
ça... Dire, hein?
Oui, oui. C'est ce que vous prouvez la Gemara dit, ça te prouve que les morts, ils sont au courant et ils s'intéressent. Ça veut dire qu'un père, a en haut, il sait ce qui se passe en bas, et il sait quand son fils il va venir, il sait que son fils il est important, il sait beaucoup de choses sur le monde des vivants. Ça veut dire que les morts ne sont pas désintéressés du monde des vivants. Alors, comment ça se passe? Parce que quand il y avait des gens, tu te rappelles les deux âmes là, les deux petites filles, d'accord? Comment elles ont su? Elles ont dit on monte en haut et on va voir ce qui se passe, qui se discute dans le tribunal céleste derrière le rideau. Donc après il y a des fuites. Maintenant, à part ça, le père de Shmuel, c'est un très grand sadique. Peut-être que lui, on l'a tenu au courant de ce qui se passe.
Est-ce que c'est pour lui ou pour toutes les...
Alors, pour l'instant, on navigue dans le flou. Même la Gemara, elle... Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara dit « Alma, Déadé ». Donc ça prouve qu'ils savent. Ils savent ce qui se passe dans notre monde. Et sous-entendu, c'est pas seulement qu'ils savent, ça les intéresse. Ils ont encore un contact, ils ont un lien. La Gemara dit « Non ». Dilma, peut-être, Shane Shmuel, peut-être c'est différent Shmuel, Kevan de Chashi, puisqu'il est très important, mais Kadme, on devance sa venue, Machazé, et on annonce Penumakom. Peut-être qu'en vérité, les morts, ils comprennent rien de ce qui se passe. Mais comme il y a un grand homme qui va arriver, alors dans le ciel, on a fait du scandale, on dit attention, attention, bientôt va arriver Shmuel. Mais bon, en haut, ils savent rien de ce qui se passe. Et donc, le père, il a capté l'information, il l'a transmis à son fils, mais en vérité, il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. Donc, la Gemara, vous voyez que, avec toutes ces preuves, avec toutes ces histoires, et quand même la Gemara dit non, t'es sûr, etc., il faut une certitude. Oui.
Il n'y en a pas.
Et c'est ce que, pour l'instant, dit la Gemara. Allez, encore... Encore une minute, oui, regardez.
Ça ne peut pas être Haloud.
Comment?
Ça ne peut pas être Haloud.
Al?
C'est l'étomim.
Oui.
Il ne peut pas être Halouda.
Ah, aussi. Même les voleurs aussi peuvent prendre. Il fait ce qu'il peut. Ouais. Ils n'envoient pas des coffres. Les coffres, même les coffres, les gens, ils prennent. Donc, il a fait ce qu'il peut. La Gemara dit, Enshmirat. Et là-bas, Enshmirat Marot et là-bas, Kaka. On garde l'argent que dans le sol. C'est le seul moyen.
Le feu, c'est l'autre.
Voilà. Alors, la Gemara dit. Alors, dans toutes ces histoires, vous voyez que la Gemara, elle tente, elle dit, voilà, ils savent. La Gemara dit non, pas obligé. Comme dans le cas d'avant. Il dit, la femme qui a dit, va chercher, dit à ma mère qu'elle m'envoie mon truc. La Gemara dit non, c'est peut-être l'ange Douma qui lui a dit. Bon, la Gemara dit, voilà, le père du Shmuel, il sait. La Gemara dit, bon, c'est pas possible, c'est pas forcé. Peut-être que dans le ciel, on a dit, attention, attention, préparez-vous. Mais peut-être oui, peut-être non. Et la Gemara dit, Ve'af Rabbi Yonatan, en vérité même Rabbi Yonatan c'est un des partisans, vous rappelez la première discussion sur ce fameux verset de Michelet qui disait, les morts ils savent rien et les vivants ils savent pas qu'ils vont mourir, vous rappelez ça? Ils avaient discuté, ils disaient, oui, est-ce qu'ils savent, ils savent pas, une interprétation complexe du verset. Et la Gemara dit, même Rabbi Yonatan, qui n'acceptait pas que les morts sachent quelque chose, Hadarbe, en vérité, même lui, qui était un anti, voilà, un sceptique, exactement, pas anti-sceptique, un sceptique. Hadarbe, même lui, il est revenu en arrière. Il dit pourquoi? D'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, parce que Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit en Rabbi Yonatan, Minaï le metim shem sabrim zeimze. D'où je sais que les morts, ils parlent les uns avec les autres. Ah, Oda, nouveau truc. Que les morts, ils discutent. D'accord?
Bon, on a bien vu en haut que les deux filles elles discutaient.
Ah, très bien. Oui, mais Rabbi Yonatan, lui, il n'est pas d'accord avec tout ça. Agmaradi, tu sais que Rabbi Yonatan, après avoir tourné, il a dit oui, il y a une preuve. Chez Neymar, c'est marqué dans la Torah. Bah, Yomer Hashem Elav, à Kadajourou, il a parlé à Moshe Rabbeinu, et il lui a dit ceci. C'était juste avant de. Vous rappelez, avant que Moshe Rabbeinu meure, Hashem, il a fait monter sur le mont. Nebo, et il a dit voilà la terre, d'accord, tu voulais rentrer en Israël, ben voilà, tu la regardes, c'est pareil. Zot Haaretz, voici la terre, Asher Nishbati, que j'ai promis, l'Abraham, l'Itrak ou l'Yaakov, à Abraham, l'Itrak, Yaakov, les morts en 10 ans. D'accord, traduction totalement ridicule, hein. Vous savez que, d'abord, j'ai mangé les morts, ceux qui traduisent Dieu a parlé à Moshe en 10 ans, ça ne veut rien dire, c'est pas en 10 ans. Les morts veut dire de dire. Est-ce que vous me suivez? Dans la Torah, souvent c'est marqué, d'abord Hachem a mouché les morts. À Kadajoukou, il a parlé à Moshe. Et après, c'est marqué les morts. Au Talmud Torah, on dit toujours en 10 ans. Dieu a parlé en 10 ans. Et n'importe quel Kidam, il parle en 10 ans. Quand on parle, c'est en 10 ans. Si tu parles, c'est en 10 ans. Donc, en vrai, voilà. Le mot les morts, c'est, il lui a dit de dire. Des fois, c'est marqué, Vaïdaber Hachem El Moshe. À quand aujourd'hui, il a parlé à Moshe, point. Ça veut dire, c'est juste entre toi et moi. Tu vas pas répéter. Mais parfois, c'est marqué, la plupart du temps, c'est marqué, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. Il lui a parlé de dire, de transmettre.
Pour transmettre. C'est marqué et mort.
Non. Parfois, c'est marqué les morts, et parfois, c'est marqué et mort. Parfois, c'est marqué juste les morts, et parfois, c'est marqué et mort. Alors, quelle différence? Bon, le Rachaim Akadosh Zichud Oganenu, il dit que quand c'est marqué Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts, ça veut dire que tu as l'autorisation de dire. Pour dire, c'est-à-dire tu peux dire. Mais quand c'est marqué « est mort », je te donne l'ordre de dire. C'est plus puissant. D'accord ? Bon. Il y a plein de nuances dans cet enseignement. En tout cas, voilà, il ne faut jamais traduire en disant. Ça ne veut rien dire en disant. Donc, ici, on a un couac. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit « Regarde, voici la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, les morts. » C'est-à-dire quoi, les morts ? Hein ? Où tu as vu ça, toi ?
Les morts, on
nous
dit que c'était
validé. Ah, qui Khazak Khazak, tu as une parole prophétique. La Gemara dit, mais il est mort. Qu'est-ce que c'est dire les morts de dire Amar Akadazoukou les Moshe. Akadazoukou il a dit à Moshe, l'air est mort là-hem. Vas-y leur dire, puisque maintenant tu es, c'est bientôt arrivé le moment de ta mort. Je te charge d'aller leur dire à Abraham, Israël et Yaakov, choix que le serment, chez Nishvati Lachem, que je vous ai promis de donner à Israël, kvar ki amti alivnechem. Je l'ai accompli pour vos enfants de vous donner Eretz Israël. La Gemara demande, Ve'isal kadatar beloyad e. Mais si tu imagines qu'ils ne savent pas, ça veut dire que Rabbi Yonatan, le sceptique, comme il a dit, si tu penses, il dit, je fais mea culpa, parce que si tu penses que les morts n'en ont rien à fiche de ce qui se passe chez nous, c'est ça l'expression, ça veut dire que ça ne les intéresse pas que leurs enfants ils soient malheureux, que si, que ça. Qui a marlé, mais quand il va aller leur dire, mais qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce que ça peut leur fiche, Abraham, Israël, Yaakov? Ça veut dire qu'eux, ils ont fait leur boulot. Abraham, Israël, Yaakov, ils ont fondé le peuple juif, ils ont fait les 12 tribus, patati patata, et bien maintenant ils sont en haut, ils sont en triodos, ça ne les intéresse plus. Tu comprends? Est-ce que nos parents, ça les intéresse, notre devenir? Et sous-jacent à tout ça, il y a, est-ce qu'ils peuvent intervenir? Est-ce qu'on peut s'adresser, etc., etc., faire des tfilotes? Ok? Doucement, on arrive et on revient sur ton problème de la Iloula, de Sid et Rabbanim. On va voir ça, doucement. Donc la Gemara dit, si tu imagines que les morts ne... Vis al-Kadatar de l'Oyadé, si tu imagines qu'ils ne savent rien, ça veut dire sous-entendu qu'ils ne savent rien, que ça ne les intéresse plus, ça ne m'intéresse plus quand il a fait la Aliya, ça ne l'intéresse plus Grenoble. C'est fini, fichez-moi la paix Grenoble. Maintenant je suis parti dans le Olamaba, vos petites guéguerres communautaires de Grenoble et de Toulouse, de toutes les villes que vous connaissez, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est plus leur problématique à ça. La Gemara dit, mais non, c'est pas vrai. Parce que sinon, mon cher Rabbeinu, ça n'avait pas d'intérêt qu'il aille leur dire, ça y est. Tu comprends, eux, est-ce que ça leur fait chaud ou froid de savoir que leurs descendants, ils ont hérité Eretz Israël? Ils ont d'autres choses maintenant. La Gemara dit, non, c'est pas vrai. Et la maille des Yadé. Donc, ça veut dire qu'ils savent et que ça les intéresse. La Gemara dit, la malé les mimarléou, qu'est-ce qu'il y a besoin alors de leur dire? S'il y a, donc la Gemara le pousse, elle dit, si ça les intéresse, et qu'ils savent, alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de leur dire? Ouais. La Gemara dit, les arzouké, les ou, tibouta les Moshe. C'est pour être reconnaissant vis-à-vis de Moshe. Ça veut dire que finalement, Moshe Rabbeinu, on a une dette avec lui. Oui, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui qui nous a supporté 40 ans dans le désert, etc. Et finalement, à la fin du spectacle, on lui dit non, vous restez là, vous rentrez pas. La Gemara dit non. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit Moshe Rabbeinu qui annonce à Abraham Yitzhak Yaakov une chose qu'il savait en disant, c'est, voilà, moi je les ai amenés jusqu'à la porte d'Eretz Israël, ça y est, Hachem il va leur donner Eretz Israël, ça fait une sorte de réparation au fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer. Entre guillemets, pourquoi même Moshe Rabbeinu n'a pas rentré? Savoir, il a cherché des histoires, mon cher Rabbeinu. C'est ceux qui ont bien étudié la paracha, oui. Il a tapé, il n'a pas parlé, etc. Il a fait tellement de bien. Tu l'attrapes là-dessus. C'est, d'autant plus, bon, quand on étudie la paracha, on verra quand on fera ces parachutes-là. C'est qu'on a cherché à le faire tomber. D'accord? Quand vous regardez la Torah, on a cherché à le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'une première fois, Hachem, il lui avait dit, tu vas taper le rocher pour sortir l'eau. Au début, à la sortie d'Égypte. Prends le bâton, tu vas taper le rocher. Quand à la fin, Hachem, il a dit, tu vas aller parler au rocher. Moshe Rabbeinu a parlé au rocher. Seulement Hachem, il avait changé de rocher. Donc Moshe Rabbeinu a dit, attends, il m'a dit de parler, ça marche pas. Alors la dernière fois, ça avait marché en tapant. Je tape, ça va, ils vont me tuer si je leur donne pas l'eau. Il a tapé, je vais dire, ah, t'as tapé le rocher, tu rentreras plus. D'accord, donc en réalité, ils expliquent par Chim, mais qu'en réalité, il y a tout un système. Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas rentrer et laisser toute une génération en dehors. C'est-à-dire, t'es capitaine. D'accord, c'est une génération de vauriens qui ont fait que des bêtises et qui sont punis de mourir dans le désert. Ils ont fait le veau d'or, ils ont fait les explorateurs, ils ont tout fait. Toi, t'as rien fait, toi. Mais tu es le chef. Et ça, c'est pas correct. D'accord, tu les as fait sortir, tu es responsable d'eux. À partir du moment où tu es responsable d'eux, tu partages leur histoire. Et donc, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il est resté avec eux. Pour pas qu'on dise, tu vois, finalement, il a sacrifié toute sa génération, il est rentré lui et son élève Yoshua, ils sont entrés en Eretz Israël et tous les autres, c'est rien. Non, tous ceux qui sont sortis avec leur chef, ils sont morts dans le désert, Moshe Rabbeinu aussi, en attendant la résurrection des morts pour qu'ils rentrent tous avec Moshe Rabbeinu qui sera leur chef. D'accord ? Et donc, la Gemara, elle termine en disant, et donc ça, c'est la conclusion de la Gemara, conclusion finale, en disant que même le plus sceptique était Rabbi Yonatan, finalement, il était obligé d'accepter que les morts savent, que les morts sont intéressés, que les morts sont au courant, et que probablement qu'il y a des contacts entre les deux mondes par des chemins qui sont à définir. D'abord, donc, bon, on va s'arrêter là parce que c'est un peu long, et on reparlera du problème des Hiloulot, des morts et de nos contacts. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les morts? Est-ce qu'on parle, on s'adresse, qu'on va au cimetière? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc ça, on reparlera. J'ai une note par achat. En tout cas, la conclusion de la Gemara, même si elle a fait beaucoup d'aller-retour, parce qu'elle ne voulait pas, on dirait que la Gemara, elle s'est faite prendre au piège, et puis elle m'a dit, bon, ça va, stop, c'est bon, j'accepte. Les morts, ils savent, et les morts, ils sont intéressés. Ça veut dire, et c'est important pour nous. C'est marqué, je vous termine en disant ça, c'est marqué dans le Zohar, que heureusement qu'il y a les morts qui nous soutiennent, sinon, par nos mérites, on ne pourrait pas tenir. On tient grâce aux mérites de nos ancêtres, de nos rachamim, de nos morts qui sont intéressés à notre avancée, à notre sauvetage. Ils nous soutiennent, comme ça dit le Zohar. Les morts nous soutiennent. Nous tenons sur le mérite des vivants, bien sûr, parce que les vivants aussi ont des mérites, mais aussi sur le mérite de nos morts. Oui, Charles.
Il y a une histoire vraie que vous m'avez racontée. Donc, une germaine de qui lui raconte l'histoire. Elle rêve de son père. Et rêve de lui. Et elle lui dit, papa, alors t'es bien là-haut? Ah non, ma fille, je suis pas bien. T'es où? T'es pas au Lamaba? Je dis, non, je suis pas au Lamaba. T'es où? Eh bien, je suis dans le couloir. Il y a un monde, tu peux pas savoir. Je dis, pourquoi t'es pas rentré? On me reproche que j'ai pas payé tous mes dons. Ah bon? Elle rêve de ça. Le lendemain, c'est ce qu'elle fait. Elle fait le tour de toutes les choux de Lamaba, en l'occurrence. Et la première chose, il a appris, effectivement, à la terminée du jour, il n'a pas réglé ce nom-là. Et il n'a pas réglé ce nom-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réglé à sa place. Le soir, elle dort, et le lendemain, avec le soir même, elle rêve de nouveau de son père. Et alors, papa, t'es bien maintenant? T'es bien? Oui, merci ma fille, maintenant que t'as réglé le nom, je suis rentré.
Ouais, il y a plein d'histoires comme ça.
Il paraît qu'il y a un monde qui attend.
C'est ça, Khatar Mavet. Ok? Bon, c'est bon pour ce soir, fête de beaux rêves. Rabbi Hanan Ben Akasher, Marzal.